Mes amis, j'ai choisi ce matin pour notre lecture de ce premier dimanche de l'année 2020, le premier chapitre, en tout cas les versets 1 à 14, du premier chapitre de la deuxième lettre de Paul à Timothée, que nous allons lire ensemble. Alors cela va être projeté. Ça va, vous lisez, vous avez vos Bibles. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, et qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. J'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens donc, dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Alors donc, ce que nous venons de lire ensemble est tiré de la deuxième épître écrite de la main de l'apôtre Paul à Timothée. Nous avons deux lettres de l'épître de Paul à Timothée, et entre les deux lettres, un an a passé et les circonstances ont changé pour l'apôtre Paul. Dans la première lettre, nous le voyons libre et il envoie Timothée à Éphèse pour qu'il s'occupe de l'Église. Mais lorsqu'il écrit cette seconde lettre, il est à Rome et il attend son jugement. Il est en prison, sûrement dans la prison de Mamertine. Je ne sais pas si vous l'avez vu à Rome, Pierre et Frédéric et Irène, quand vous êtes allés le voir, Rome. Donc un endroit que l'on peut visiter encore aujourd'hui à Rome. Ce n'est pas du tout un endroit confortable. Une prison, ce n'est pas un endroit où on aimerait passer ses vacances, par exemple. Hein ? Et il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul va demander à Timothée, lorsqu'il va venir le rejoindre, de lui apporter son manteau, parce que dans cette prison, c'est un endroit froid et humide. Paul sait que dans cette prison, il n'en ressortira pas vivant. Il est, en quelque sorte, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le couloir de la mort. Il écrit lui-même un petit peu plus loin dans cet épître. Le temps de mon départ est arrivé. Chapitre 4, verset 6. À cause de cet emprisonnement, il est abandonné de beaucoup de personnes. Il écrit « Luc seul est resté avec moi ». Onésiphore, un autre homme qu'il cite, l'a soutenu de manière occasionnelle. Et il écrit à Timothée de manière pressante. Pressante parce qu'il ne sait pas combien de temps il va rester encore en vie. Il écrit à Timothée de manière pressante pour que celui-ci vienne le rejoindre au plus tôt. Il veut le revoir et l'encourager et vivre avec lui un temps de joie. C'est pour la joie qu'il veut revoir Timothée. Entre Paul et Timothée, vous l'avez remarqué dans notre lecture, il y a un lien particulier. ce ne sont pas simplement des amis, ce ne sont pas simplement des compagnons d'œuvre. Ils n'ont pas simplement travaillé pendant une quinzaine d'années ensemble. Ils ont créé des liens, je dirais, presque d'ordre familial. L'apôtre Paul se dit être son père spirituel, en quelque part. Paul considère Timothée comme son enfant bien-aimé, un petit peu comme son héritier spirituel. C'est donc une correspondance qui est totalement personnelle, intimiste. Mais le Saint-Esprit a voulu en donner une dimension universelle, puisqu'aujourd'hui, nous pouvons, chacun, chacune, lire cet épître et en recevoir de nombreux enseignements. Pendant les congés de vacances, j'ai lu et relu cette épître et elle m'a fait énormément de bien. Je peux dire que c'est une épître qui c'est du lourd. Hein ? C'est pas du léger, c'est du lourd. Il y a des enseignements qui sont profonds, qui sont conséquents. Et dans ce que nous venons de lire, nous pouvons le lire rapidement, effectivement. Hein, 14 versets, ça prend même pas 5 minutes. Mais lorsqu'on prend le temps de réfléchir et de se rappeler dans quelles circonstances ça a été écrit, ça nous impacte profondément, ça nous touche profondément. En tout cas, moi, j'en ai été impacté. Et je voudrais vous partager en quelques mots ce que j'ai reçu, tout simplement. La première chose qui m'a sauté aux yeux, sachant ce que nous sachons, que l'apôtre Paul ne va pas sortir de prison, qu'il va être décapité un peu de temps après, c'est la force de l'apôtre Paul. C'est cette force qui se dégage de la lecture que nous avons fait ce matin ensemble. Et j'espère que vous en avez saisi un petit peu. Lorsque nous lisons, et que nous prenons le temps de le lire, on ne trouve aucune place à un apitoiement sur soi. Il est en prison, mais il ne s'apitoie pas sur soi. Il est en prison, mais il ne se décourage pas. Il est en prison, mais il ne tombe pas dans la dépression. Il aurait pu, vous ne croyez pas ? Son écriture, au contraire, ça marque la force, marque la conviction intérieure qu'il habite. Regardez le verset 7, par exemple. « Ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, d'amour, je l'ai marqué, de sagesse. » Ou encore le verset 12. Je suis persuadé que celui-là, c'est-à-dire Jésus-Christ, a le pouvoir de garder ce qui m'a été confié jusqu'à ce jour-là. Dans cette lettre, il ne demande pas d'encouragement. Il ne requiert pas aucune commisération ou de compassion. Il n'écrit pas à Timothée pour lui demander « Regarde comment je souffre, aie pitié de moi ». Au contraire, du fond de sa cellule, c'est lui qui encourage, c'est lui qui exhorte et c'est lui qui conseille Timothée. Alors d'où lui vient cette force à notre ami Paul ? Est-ce que c'est quelque chose qui lui vient de son propre caractère ? Est-ce que c'est quelque chose qui lui vient de son propre tempérament ? Est-ce que l'apôtre Paul est un optimiste né ? Qu'en pensez-vous ? Personnellement, je ne le pense pas. Dans la seconde lettre aux Corinthiens, qui est une lettre aussi très personnelle et dans laquelle il se dévoile, il laisse penser qu'il est capable de découragement. Il parle de ses luttes au dehors, de ses craintes au dedans. Il dit même qu'il avait eu besoin d'être consolé à ce moment précis. Alors, d'où lui vient cette force ? Est-ce que Paul était un rêveur ? Était-il dans l'illusion ? Était-il dans la fuite de la réalité ? Peut-être s'attend-il à être délivré encore une fois de manière miraculeuse ? Vous savez que Paul était un familier du miraculeux. Il a vécu des choses extraordinaires. Il a vécu même l'expérience d'être délivré d'une prison. Il était emprisonné avec Silas, il chantait des cantiques, Et il y a eu un tremblement de terre, et le texte nous dit dans les Actes que les portes s'ouvrirent et que même les liens qui le retenaient étaient tombés. Paul, ne pourrais-tu pas chanter encore une fois de plus pour être délivré? Non, Paul ne se berce pas d'illusions. Il est dans la réalité. Et il connaît parfaitement sa situation et il sait ce qui l'attend. Il sait pertinemment que sa fin est proche. Le temps est arrivé. Alors d'où lui vient cette force? D'où lui vient cette force alors qu'il sait qu'il va à la mort certaine? Il y a trois indices qui peuvent nous aiguiller dans le texte. Et moi, ça m'a tilté, ça m'a matché, comme on dit aujourd'hui. D'où lui vient cette force? Du Saint-Esprit. Un, du Saint-Esprit. Regardez encore ce fameux verset qui est, je dirais, le verset clé de ce chapitre, à mon avis. C'est un esprit, non pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il applique à Timothée, mais il ne peut qu'appliquer à Timothée que ce que lui-même vit dans son quotidien. Il expérimente la force de l'esprit dans son quotidien et dans cette situation particulière. Il nomme cela dans Philippiens l'assistance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient dans nos faiblesses, qui vient au secours de nos faiblesses. Jésus appelle le Saint-Esprit l'avocat, le défenseur, celui qui se tient à nos côtés lorsque des gens, lorsque même un tribunal devrait nous demander des comptes. Le Saint-Esprit est encore cette force, non pas simplement une force impersonnelle, la personne de Dieu appliquée à nos vies. C'est lui qui déverse en nous l'amour pour Dieu. C'est lui qui crie en nous « Abba, Père ». C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. C'est lui qui dirige nos pas. C'est lui qui nous attire de plus en plus vers les choses de Dieu. C'est lui qui nous assiste pour que nous soyons des témoins efficaces, qui nous donne le don du Saint-Esprit, les dons, les charismes, pour mieux le servir. L'apôtre Paul sait qu'il compte, qu'il peut compter sur le Saint-Esprit pour l'aider à vivre ce qu'il est en train de vivre dans sa prison. Il a besoin du Saint-Esprit. Il n'est pas fort en lui-même, il est fort de Dieu, il est fort du Saint-Esprit qui habite en lui. Il tire sa force du Saint-Esprit, il tire sa force de sa théologie, ou je dirais de son évangile, du contenu de sa foi. Regardez comme Paul n'en rote pas une pour parler de son évangile. Dans la face exhortative à Timothée, dans la lecture que nous avons faite, il remet les fondements. Comme si Timothée ne le savait pas. Il revient encore au milieu, il remet au centre l'évangile. Voyez comment il le résume. La grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Ce n'était pas simplement une simple connaissance, pas simplement une simple adhésion intellectuelle. C'était une foi et un contenu biblique qui changeait son cœur et sa vision de vie qu'il avait sur lui-même. Mes amis, la théologie sert, la doctrine sert, pas simplement à remplir nos têtes, mais à remplir nos cœurs. Je ne peux que vous exhorter à revenir à ce que l'Évangile nous dit, ce que l'Évangile veut dire, à l'enseignement de la parole de Dieu. Je ne peux que vous exhorter pour cette année à revenir sur les bases, sur les fondements. Face à la mort, Paul a une certitude. Jésus a vaincu la mort, il l'a réduite à rien, elle est sans force. Et Paul ne la craint plus. Face à la mort, Paul a une certitude. Jésus a vaincu la mort, il l'a réduite à rien, elle est sans force. Paul ne la craint plus. J'aurais voulu qu'il y ait une petite amen. 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 C'est ça l'évangile. Troisième indice, d'où tire la force de Paul ? Où elle puise ? Je dirais de sa vision de vie. Alors regardez encore, je ne sais pas si je l'avais noté, oui, de sa vision de vie. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Ni de moi son prisonnier. Paul intègre son emprisonnement dans la volonté de Dieu. Il n'est pas le prisonnier des hommes. Il est le prisonnier de Dieu. L'apôtre Paul ne vit pas une vie compartimentée. C'est-à-dire certaines choses qui appartiendraient au Seigneur, puis d'autres choses qui ne lui appartiendraient pas. La vie chrétienne est un tout, et elle englobe toute la vie. La vie chrétienne ne se résume pas à venir à des réunions ou à aller au culte. Elle englobe toute la vie. Elle englobe la profession, elle englobe le voisinage, elle englobe la famille, elle englobe la totalité de la vie. Pas simplement un certain compartiment, mais toute la vie. Quelqu'un a dit, soit le Seigneur est le Seigneur de tout dans ma vie, soit il n'est pas Seigneur du tout. Soit il est le Seigneur de tout, soit il n'est pas le Seigneur du tout. Hein ? Nous nous contentons trop de l'Évangile, frères et sœurs, comme une offre de salut, une offre de consolation, une offre de pardon. Mais l'Évangile est plus qu'une offre de salut, et plus qu'une offre de pardon, et plus qu'une offre de bien-être intérieur. On pourrait présenter l'Évangile comme une offre de bien-être intérieur. L'Évangile aussi comporte l'aspect vocationnel. L'apôtre Paul va le dire. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Qui est heureux d'être pardonné ce matin ? Waouh, beaucoup de monde. Qui est heureux d'être sauvé ? Waouh. Savez-vous que Dieu vous a adressé une sainte vocation ? Qui est heureux de... Qui est conscient d'avoir une sainte vocation ? Même si ça passe par la souffrance ? Cette année, je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions rentrer dans notre vocation. Alors, ce n'est pas la recherche d'un titre. Ce n'est pas la recherche d'un ministère particulier. Ce n'est pas la recherche d'être sur l'estrade ou pas sur l'estrade. Ce n'est pas la recherche de tout ça. Marcher dans sa vocation, c'est marcher au service de Dieu. C'est marcher au service de Jésus-Christ, dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. L'apôtre Paul va dire même que l'esclave travaille non pas pour son maître, mais comme pour le Seigneur. Désirer vivre chaque minute, chaque instant de notre vie pour le Seigneur, c'est ça rentrer dans sa vocation de chrétien. Nous avons à vivre une vie vocationnelle. Je nous exhorte, moi y compris, à rentrer dans cette vie vocationnelle, à travailler pour le Seigneur, ensemble, individuellement, à nous donner vraiment corps, âme, esprit au Seigneur pour le servir. Que cette année, nous puissions voir notre service exploser, donner du fruit autour de nous. Après avoir vu ce que Paul vit et ressent dans sa prison et comment il trouve la force de faire face, je voudrais qu'on regarde un petit peu plus près les conseils, les exhortations qu'il donne à Timothée. Et il nous en donne trois. Je ne vais pas m'étendre longuement sur cela, mais nous allons nous pencher un peu plus particulièrement sur le second. La première exhortation, ranime le don que tu as reçu. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don, de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. On pourrait comprendre cela comme un charisme particulier, cela comme un ministère particulier. Il vaut mieux le comprendre comme le don du Saint-Esprit, tout simplement. J'ai regardé plusieurs commentaires et les meilleurs commentaires parlent de cela. Le don que Timothée a reçu ne sont pas simplement quelque chose de particulier, mais le Saint-Esprit qu'il a reçu. Et vous le savez, le Saint-Esprit, eh bien, parfois on peut le négliger, parfois on peut même l'attrister. Paul nous exhorte à être continuellement remplis de l'Esprit-Saint. Quand avons-nous besoin de le ranimer, frères et sœurs? Eh bien, quand nous sentons que nous sommes un peu froids, quand nous sentons qu'il ne brûle pas de manière enthousiaste en nous, quand nous sommes embarrassés par les soucis qui nous entourent, quand il y a des problèmes tellement gros que cela nous empêche à lever les yeux vers le ciel. Oui, à ce moment-là, nous avons besoin de fouiller dans les braises qui existent dans nos cœurs pour ranimer cette flamme. Oui, nous avons besoin à ce moment-là de ranimer le feu, la flamme du don de Dieu qui habite en nous. La première exhortation est pour cette année 2020. Ranimons la flamme qui habite en nous, en chacun d'entre nous, de manière individuelle, mais aussi de manière communautaire. La seconde exhortation, l'apôtre Paul lui dit, « N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Ne pas avoir honte du témoignage. Alors la honte, je pense que nous connaissons tous la honte, n'est-ce pas? Et comment elle se manifeste? On la connaît enfant, lorsqu'on ne veut plus donner la main à la maman qui nous conduit à l'école. Hein, on dit aux parents, ne me fais pas trop honte. Hein, on peut avoir honte de ses vêtements. Quand j'étais gamin, j'avais honte de mes vêtements. Mes copains, ils avaient tous des marques. Moi, j'avais 7 frères, hein, donc il fallait passer tous les vêtements des uns et des autres. Hein. On peut avoir honte de son travail. On peut avoir honte de son milieu social. Que fait la honte? La honte nous fait déprécier ce que nous sommes. La honte nous fait nous retirer dans notre petit coin, nous replier sur nous-mêmes. La honte nous fait nous cacher du regard des autres. Je me suis demandé, en lisant ce texte, si ce n'est pas la honte qui habitait Pierre au moment de son reniement, plutôt que la peur et la crainte. Je vous laisse réfléchir à ça. Ça, c'est la phrase de mon ami Fred. Je vous laisse réfléchir. Pierre avait cru en Jésus. Okay. Pierre, il avait cru, il avait vraiment vu Jésus faire des choses extraordinaires. Il avait vu Jésus multiplier les pains, nourrir des milliers de personnes. Il avait vu Jésus ressusciter Lazare. Il avait vu Jésus marcher sur les eaux. Il avait eu envie de marcher avec lui sur les eaux. Il avait vu Jésus faire une pêche miraculeuse. Et puis là, au moment de l'arrestation de Jésus, il voit un Jésus qui est nu. Il voit un Jésus qui se fait bafouer par des soldats, gifler, cracher, avec une couronne d'épines sur la tête. Pierre, ce n'est pas un homme qui a peur. D'ailleurs, la peur n'est pas mentionnée. Pourquoi il a renié? Ce n'est pas par crainte. Simplement, il dit non, je ne le suis pas, je ne suis pas avec lui. Il a lâché la main de Jésus comme l'enfant aurait pu lâcher la main de sa maman à un moment donné. Parce qu'il ne reconnaît pas Jésus, son sauveur et son maître. Il a honte de lui, honte de son sauveur et de son Seigneur. Il a honte parce qu'il lui semble que Jésus n'est pas à la hauteur de sa réputation. Ah si, Jésus, tu avais demandé cette légion d'anges. Alors là, oui, là, j'aurais été fier de toi. Et là, tu fais rien, tu bouges pas, tu te laisses, tu te laisses maltraiter. Tu dis rien. Seigneur, bouge-toi, montre-moi qui tu es. Montre-nous qui tu es, montre-leur qui tu es. Je suis fier de toi, mais là tu fais quoi? L'apôtre Pierre n'avait pas encore compris qu'à ce moment-là, c'était la grande victoire de l'Évangile. Il n'avait pas apprécié la situation. Il appréciera plus tard. Mais à ce moment-là, il ne l'apprécie pas. Il ne la comprend pas. Il la dévalorise. Il ne sait pas que la croix, c'est la grande victoire de Dieu sur le monde, sur le mal, sur le diable, sur la mort. Il ne le sait pas encore. Il le saura après. Nous pouvons avoir honte de l'Évangile parce qu'il nous en manque la vision, l'appréciation de sa valeur. Nous avons trouvé une grande perle, une perle de valeur, comme dit la parabole que Jésus enseigne. Mais nous n'en savons pas le prix. Nous la considérons comme une perle en plastique, comme une perle en toc. N'ayons pas honte de l'Évangile, n'ayons pas honte du témoignage apporté à l'Évangile. Parce qu'il y a de la valeur, il y a de la richesse, c'est le salut du monde. C'est l'amour du Père révélé. C'est la victoire de la vie sur la mort. C'est l'Évangile. Nous avons cette espérance. C'est ce que nous avons reçu. L'apôtre Paul rappelle à Timothée, n'aie pas honte de l'Évangile, du témoignage de l'Évangile. N'aie pas honte aussi de ce que je suis en train de vivre. Je suis en prison, certes, mais c'est pour l'Évangile que je souffre. Comme mon Seigneur Jésus-Christ a souffert pour moi. N'aie pas honte. Ça fait partie de la vie chrétienne, cela. N'aie pas honte. Troisième exhortation que l'apôtre Paul donne à Timothée. Garde le bon dépôt, les saines et belles paroles que tu as entendues de moi. Et là encore, une exhortation à revenir sur les fondamentaux. Une exhortation à revenir sur ce qui est saint, les saines paroles. Non pas les saintes paroles, mais les saines paroles. C'est-à-dire les paroles qui donnent de la santé. C'est ça que ça veut dire, les saines paroles. Qui donnent de la vie, les saines paroles. Que lorsque tu les manges et lorsque tu les bois, eh bien elles te décrassent de l'intérieur. On en a besoin après les fêtes de Noël, hein. Pas la soupe aux choux qui va nous décrasser. C'est les saines paroles que nous recevons de Dieu. Les saines, celles qui amènent de la santé, celles qui amènent de vivre sainement dans le royaume de Dieu. Alors voilà, mes amis, ce que je voulais vous partager en ce début de l'année 2020 pour nous en tant qu'Église. Recevoir les exhortations que l'apôtre Paul nous donne. Avoir une vision globale de ce qu'est notre vie. Pas simplement compartimenté, mais ensemble. Total. Dire que quand je vais sortir du culte, eh bien, quand j'irai me promener à la campagne, c'est en tant que croyant, en tant que chrétien que je me promène dans la campagne. Je peux remercier le Seigneur de ce que je suis en train de vivre, là, en ce moment, dans la campagne. Vous allez vous promener peut-être ? Oui ? Demandez au Seigneur de souffler, vous-même souffler sur cette braise qui habite en vous. Demandez au Seigneur de vous montrer la richesse de l'Évangile qui est en Jésus-Christ. Replongez nos yeux dans la parole qui nous amène à vivre sainement. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce temps autour de ta parole. Merci pour ces exhortations. Merci pour cette vie de l'apôtre Paul. Merci pour cette vie de Timothée. Seigneur, merci parce que ce ne sont pas des vies qui sont inapplicables à nous. Ce ne sont pas des super-héros que tu nous as montrés comme modèles, mais des gens ordinaires qui ont su et qui ont compris, Seigneur, la force qu'il y a dans l'Évangile. Seigneur, que cette année 2020, nous puissions